VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, le procès d'Hissène Habré a repris aujourd'hui devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. L'ex-président tchadien a été amené de force au tribunal après avoir initialement refusé de se présenter devant le juge. Hissène Habré récuse le tribunal et refuse de se défendre. La cour a dû d'ailleurs commettre d'office 3 avocats pour assurer sa défense. Au micro d'Idriss Fall, la réaction de Reed Brody, chercheur de Human Rights Watch, qui a fait campagne pendant des années pour que Hissène Habré soit jugé.
Maintenant, je pense que le procès va commencer pour du bon. Les témoins viendront, les preuves seront présentées et la justice se fera finalement. Les victimes qui se battent depuis 25 ans et qui ont attendu patiemment encore 45 jours vont finir par croiser le regard de Hissène Habré devant un tribunal.
Mais en fait, les avocats qui vont assurer sa défense ont été commis d'office par le juge.
Oui, selon la jurisprudence sénégalaise et la pratique internationale, il faut que Hissène Habré ait des défenseurs, qu'il le veuille ou non, qu'il ait un procès équitable. Ces avocats sont commis et pour défendre Hissène Habré et pour assurer la bonne administration de la justice. On aurait voulu que les avocats d'Hissène Habré se présentent, mais comme ils ont choisi de ne pas se présenter, c'est tout à fait normal et ça a été fait depuis le procès Milosevic jusqu'au Khmer Rouge, il faut qu'ils aient des conseils pour le défendre.
Et s'il se présente et refuse de parler?
Je pense qu'il va refuser de parler, mais qu'il parle ou non, le procès aura lieu.
Mais est-ce qu'on peut juger Hissène Habré sans juger le chef de sa police qui est aujourd'hui le président Idriss Déby Itno?
Idriss Déby Itno était le chef militaire pendant un moment particulièrement sanglant du régime d'Hissène Habré, ce qu'on appelle Septembre Noir. Mais c'était au plus un deuxième couteau dans la justice internationale, que ce soit le procès de Milosevic ou de Charles Taylor. On a l'habitude que les chefs d'État se présentent et comparaissent à la barre. Le fait que les deuxièmes couteaux ne soient pas là n'enlève en rien l'importance du procès de celui qui était le chef suprême.
C'est ce second couteau qui a donné beaucoup d'argent pour que ce tribunal soit mis en place.
Le tribunal est financé par beaucoup de pays. Le Tchad a donné plus que d'autres et je trouve tout à fait normal que le Tchad, le pays le premier concerné, le pays des victimes, le pays qui était ravagé pendant les 8 ans de règne d'Hissène Habré, contribue. Mais c'est pas pour cela qu'ils aient un droit de regard sur le travail ou sur l'indépendance des juges d'instruction qui ont mené une enquête de 19 mois en toute indépendance, qui ont interviewé plus de 2500 victimes et témoins, qui ont ouvert des fosses communes, qui ont commis des experts ont fait un travail colossal et rien ne montre que le procès ne sera pas équitable.
Reed Brody, directeur Afrique de Human Rights Watch. Gabon. La municipalité de Libreville a lancé une opération d'attribution d'un nom à chaque rue et avenue et d'un numéro à chaque maison. Objectif entre autres, faciliter le travail des chauffeurs de taxi et d'ambulance et permettre à la poste de distribuer le courrier. Le coût d'envoi de cette opération financée par l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones a eu lieu ce week-end en présence des maires de Kinshasa, Brazzaville, Bangui, Yaoundé et Paris. Le point avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Carrefour poubelle derrière la prison, affaires étrangères, trois quartiers. Dans la capitale gabonaise, les moyens d'orientation sont les édifices publics ou les quartiers les plus connus. Mais cette donne pourra bientôt changer. Plus de 50 ans après, la mairie de Libreville a ressorti de ses tiroirs un projet d'attribution des noms et des adresses à chaque rue. Pour une étape emblématique de cette opération, le dévoilement de la plaque de la rue Bernard Mba dans le 2e arrondissement de Libreville. Bengon Eyegué, le maire d'arrondissement, s'est réjoui.
Cette cérémonie n'est pas pour les habitants de notre arrondissement un moment ordinaire. Elle est considérée comme une nouvelle ère pour tous les arrondissements de Libreville. Il y a en effet dans la mise en œuvre de ce projet d'adressage l'élaboration d'un système de repérage plus efficace pour toutes les personnes habitant le 2e arrondissement ou qui sont de passage.
Le but visé, selon Rose Osuka Raponda, la maire de Libreville, c'est d'améliorer les recettes fiscales. Elle pense que cette initiative va bientôt mettre fin à ce casse-tête.
L'adressage de la ville de Libreville apportera notamment une amélioration du repérage et de l'orientation pour les habitants, localisation également des services urbains, une facilitation des interventions de sécurité et d'urgence telles que les forces de police, les ambulances, les pompiers, etc.
À ce jour, Libreville ne compte que 50 rues avec des noms de personnalités françaises. Certes, le centre-ville bénéficie d'un plan d'adressage, seulement les usagers ne s'y réfèrent toujours pas pour leur orientation. À Libreville, de nombreux quartiers sont enclavés, beaucoup de maisons sont perchées sur des collines, pas d'accès pour les sapeurs-pompiers, les ambulances ou la poste. Les habitants, eux, ne croient pas au succès de l'opération, car toutes les expériences antérieures ont lamentablement échoué. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, les combattants de la plateforme regroupant les milices pro-Bamako obtempèrent finalement aux injonctions du président Ibrahim Boubacar Keïta et se retirent de la localité d'Anéfis dans la région de Kidal qu'ils avaient prise aux forces des ex-rebelles de la CMA à la mi-août. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après les différentes tractations, c'est le dimanche 6 septembre que les combattants de la plateforme ont commencé leur retrait de la ville stratégique d'Anéfis, une ville qu'ils occupaient depuis le 15 août dernier. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme.
La plateforme décide d'entamer son retrait d'Anéfis. Cependant, elle reste extrêmement soucieuse quant à la sécurité des populations, la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans la région de Kidal. La plateforme garde l'espoir que les autorités maliennes et la communauté internationales prendront les mesures idoines pour préserver les populations des humiliations et des sévices de tout genre dont elles font l'objet de façon permanente.
Avec ce retour à la normale à Anéfis, les Maliens espèrent le cantonnement des différents groupes armés dans le nord du Mali afin de donner un autre élan à l'application de l'accord pour la paix qui tarde à se concrétiser. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'ancien opposant et candidat à la présidentielle du 11 octobre, Ablassé Ouédraogo, porte des recours en disqualification contre 5 candidats devant le Conseil constitutionnel. Parmi eux, Roch Marc Christian Kabore, le candidat du MPP qui est un ancien allié. Pourquoi ce revirement? La réponse d'Ablassé Ouédraogo au micro de Bagassi Koura.
Le projet de loi que Roch Marc Christian Kabore, quand il était président du CDP, président de l'Assemblée nationale, a initié ce même projet qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est pour cela qu'il doit être sanctionné.
Pourtant, vous l'avez accueilli, hein, Roch Marc Christian Kabore, lorsqu'il a démissionné avec ses camarades du parti de Compaoré pour vous rejoindre dans la lutte contre la modification de l'article 37.
Vous avez tout à fait raison, mais on ne lui a pas demandé de venir être candidat pour la présidence du FASO.
Voilà, c'était Ablassé Ouédraogo, candidat du parti Le Faso, autrement à la présidentielle au Burkina. Et puis, le drame des migrants cherchant à rejoindre l'Europe face à l'afflux massif des demandeurs d'asile. Le pape François a exhorté dimanche chaque paroisse et chaque communauté religieuse en Europe à accueillir une famille de réfugiés. Comment son appel a-t-il été accueilli? Au micro de Timothée Donagma et la réponse de Charles Kabeya Moissé, professeur de sciences politiques et d'anthropologie religieuse à l'Université catholique de Lyon.
Le pape a commencé il y a déjà à peu près 6 mois avec l'affaire de Lampedusa à réveiller l'Europe par rapport à ses valeurs chrétiennes et par rapport à l'accueil de l'autre et notamment de l'autre le plus souffrant. Et puis lorsqu'il est passé aussi à Strasbourg, donc au Conseil de l'Europe, le pape a fait le même message. Et maintenant, c'est se relayer aussi par des politiques comme l'Allemande, la chancelière Angela Merkel et François Hollande. Mais tous les archevêques et les évêques des diocèses de France, parce que je parle de ce que je connais le mieux, ont relayé aussi cet appel. Et pas plus tard que vendredi soir, à l'archevêché de Lyon, on a eu une rencontre pour ouvrir un peu les portes des uns et des autres par rapport à ce qui arrive. Les chrétiens sont de plus en plus sensibilisés, et au-delà des catholiques même, parce que là où je suis, c'est un ami pasteur de l'église réformée que je suis venu visiter. Dans sa paroisse, ils mettent aussi en place toute une stratégie pour pouvoir accueillir et aider ceux qui sont sur place.
Kabeya Moissé Charles, professeur de sciences politiques et d'anthropologie religieuse à l'Université catholique de Lyon. Et pour terminer, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, des migrants secourus dimanche par les gardes-côtes italiens font état d'au moins 5 disparus à bord de leur canot pneumatique au large des côtes libyennes. Les migrants à bord du canot étaient essentiellement originaires du Sénégal, de Gambie et du Nigeria. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.